Nathalie Ferrand-Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du réseau Environnement Santé. Bienvenue sur RCF pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui, on parle donc des PFAS, appelés aussi les polluants éternels.
Alors, tout à fait. Donc, ce sont les polyfluoroalkyles ou les perfluoroalkyles qui sont en fait ces perfluorés dont on parle souvent dans nos émissions. Et polluants éternels, effectivement, puisque la demi-vie dans l'environnement est de 43 ans. Donc, on voit qu'on ne peut pas les éliminer facilement. Pareil dans notre organisme où la demi-vie est de à peu près 2 ans et demie. Donc, on voit que la contamination qu'on aura de notre repas de midi, la moitié de cette contamination ne sera éliminée que dans 2 ans et demie.
Les PFAS qui font l'actualité, puisqu'une loi initiée par les écologistes a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Seulement, les ustensiles de cuisine ne sont pas concernés par cette loi.
C'est ça, c'est-à-dire que la loi au départ concernait les vêtements, les cosmétiques, les produits comme le fart au niveau des skis. Et puis ensuite, tous les ustensiles de cuisine, puisqu'on sait que c'est là qu'on retrouve beaucoup de ces perfluorés, de ces PFAS. Et malheureusement, ils ont été exclus de cette loi, notamment avec la pression d'industriels comme SEB, qui a manifesté, dont les salariés ont manifesté, de façon à ce qu'ils ne soient pas concernés par cette loi. Donc c'est là qu'on voit toute la fragilité dans nos démarches. D'un côté, c'est la santé, d'un côté, c'est l'économie. Or, en fait, les deux devraient en tout cas être liés. Et on se rend compte qu'encore, c'est trop vu de façon séparée. Et donc, on a encore beaucoup de travail à faire là.
Justement, est-ce qu'on peut rappeler ce que les PFAS font sur notre organisme et sur la nature? Quel est le danger, en fait?
Oui, tout à fait. Donc, ça crée. Alors, déjà, il faut savoir qu'en 2019, Santé publique France avait sorti un rapport qui montrait que 100% de la population française était contaminée par ces PFAS. Donc, les conséquences sur la santé, c'est notamment des cancers, donc cancer du rein, des testicules. On a aussi tout l'impact hormonal, notamment au niveau de la thyroïde. On a la baisse de la fertilité, l'augmentation du cholestérol. Et puis ensuite, on le retrouve aussi dans le retard de développement du fœtus. Donc on voit que les conséquences sont importantes, notamment chez la femme enceinte par rapport au développement du fœtus. Et puis les maladies qu'il pourra développer en suivant, mais aussi par rapport à la population des jeunes, les enfants, les adolescents et les adultes.
Les écologistes avaient fait des relevés d'eau partout en France, et notamment à l'Isle-sur-Tarn, où ils avaient retrouvé des polluants éternels qui étaient interdits depuis 2022, dans l'eau potable aussi. Donc comment on fait pour s'en prévenir, en fait, pour pas être en contact avec ça?
Alors, pour pas être en contact, déjà, dans notre quotidien, donc comment on retrouve ces perfluorés dans les cosmétiques? C'est vraiment faire le choix de cosmétiques bio dans lesquels on n'aura pas ces perfluorés. Par exemple, aux États-Unis, ils avaient fait toute une étude montrant que les mascaras, les rouges à lèvres et les fonds de teint, pratiquement 50% contenaient de ces PFAS, de ces perfluorés. Donc, par rapport à la cosmétique, par rapport aux vêtements aussi, on en trouve. Donc là, pour le moment, la loi ne concerne pas les vêtements professionnels, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve notamment au niveau des pompiers. Donc les vêtements, c'est tous les vêtements de sport qui sont des vêtements imperméabilisés. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas en fait la composition de ces vêtements quand on achète un vêtement. Donc on le retrouvait avec certaines matières très très célèbres, effectivement, puisque les PFAS, les perfluorés, c'est une matière déperlante, c'est-à-dire que ça empêche, si vous voulez, l'eau de pénétrer. Donc faire attention par rapport effectivement à ces vêtements de sport. Et puis ensuite, dans le quotidien, donc on peut le retrouver aussi au niveau de la contamination alimentaire par les ustensiles de cuisine. Donc ça, on en parle très souvent, c'est les fameuses poêles téflon, dans tout ce qui est vêtements antiadhésifs, par rapport à certains ustensiles aussi qui sont en silicone. Et malheureusement, quand on achète un moule à tarte en silicone ou une louche, il n'est pas indiqué la composition en fait de ces produits. Donc du coup, au réseau Environnement Santé, on déconseille d'acheter effectivement des ustensiles en silicone, et puis ensuite des poêles ou des casseroles antiadhésives.
Et justement, le parti Les Écologistes planche sur des moyens d'informer la population, notamment en créant un label ou juste d'imposer dans les composants en fait, des produits la présence ou non de PFAS. Et puis, en fait, il y a aussi des scientifiques américains qui ont mis au point un dispositif pour détecter la présence de certains PFAS dans l'eau potable. Ça veut dire, est-ce qu'à terme, on pourra faire des tests à la maison?
Alors, pourquoi pas? Là, je ne pourrais pas vous dire en l'état actuel des choses, mais je pense que le plus important, c'est de s'occuper des causes, c'est-à-dire des sources de ces PFAS. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la présence de polluants éternels dans l'eau. Le problème, c'est que si on interdit des substances, comme ce sont des polluants éternels, et que la demi-vie est de 43 ans, même avec les substances non utilisées, on va retrouver des PFAS pendant 43 ans en demi-vie et au moins 80 ans, on ne sait pas combien de temps exactement puisqu'on n'a pas assez le recul, puisque ce sont des produits qu'on utilise depuis les années 50. Donc encore, on n'est pas dans ces 80 ans. Donc savoir qu'il y en a, oui. Après, comment s'en prémunir et surtout faire en sorte de ne plus utiliser ces produits. Et là, c'est un travail qui est à faire, notamment avec les industriels. Donc, tout à l'heure, on parlait des cosmétiques. Si on ne retrouve pas de perfluoré, de PFAS, en fait, dans les cosmétiques bio, ça veut dire qu'on peut fabriquer des produits cosmétiques sans utiliser ces PFAS. Donc, à chaque fois, on avait la question aussi pour des gélules, notamment de médicaments ou de compléments alimentaires qui contenaient des phtalates, mais certaines gélules n'en contiennent pas. Ce qui montre bien qu'il y a des industriels qui savent faire sans utiliser ces produits. Donc, on voit bien qu'en mettant des interdictions d'utilisation, il y a de toute façon des alternatives.
Est-ce que justement... Une des alternatives, donc, c'est de privilégier justement les industries dites propres, plutôt. Dans les faits, est-ce que du coup, ça reviendrait peut-être plus cher aux consommateurs?
Alors, par rapport au coût des produits, la difficulté, c'est que quand on achète un produit, on n'intègre pas le coût des conséquences. C'est-à-dire que quand on est malade, à cause de tous ces produits toxiques et qu'on sait toxiques dans tout notre environnement quotidien, ce sont nos régimes sociaux et nos impôts qui assument le coût de ces produits toxiques qui sont dans ces produits du quotidien. Donc si on faisait vraiment payer les conséquences néfastes pour notre santé et la santé des écosystèmes de ces produits toxiques, on verrait que tous ces produits qui pour le moment ne coûtent pas très cher, je pense notamment à tout ce qui est produit plastique, en fait deviendraient de plus en plus chers parce qu'on intégrerait le coût de ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire ce que coûtent les conséquences par la suite. Donc on voit que là, il y a vraiment un pas de côté à faire et changer de paradigme, changer d'échelle aussi, puisque ces problèmes, ce n'est pas que local, c'est vraiment des problèmes absolument mondiaux. Et on voit que si on ne rentre pas dans cette dynamique d'un changement en fait de grille de lecture, ça va être très compliqué. Et ce que je trouve dommage justement, c'est qu'au niveau de nos politiques, que ce soit au niveau national, au niveau européen, encore une fois, ils ont reculé. Et on le voit par rapport à ce qui s'est passé avec la crise des agriculteurs, où ils ont reculé par rapport aux produits, notamment aux pesticides. Il faut rappeler que les premières victimes des pesticides sont quand même les agriculteurs et les familles d'agriculteurs, les enfants d'agriculteurs. Et donc, on voit qu'ils ont reculé. Donc, au contraire... C'est à la fois société civile, les associations, mais les élus aussi qui sont engagés dans ces combats-là. C'est faire valoir, en fait, les questions de santé publique. Parce que ne pas s'en occuper, on voit qu'au niveau européen, par exemple, les conséquences des perturbateurs endocriniens, c'est 157 milliards par an que ça coûte aux régimes sociaux de l'Europe. Donc on voit que là, maintenant, ça nous coûte plus cher de ne rien faire que de faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il faut un courage politique, un courage industriel, pour pouvoir développer d'autres produits et ne pas opposer sans arrêt l'écologie avec l'économie. Parce que justement, d'aller dans une autre démarche en fait, de protection de la santé va permettre de développer d'autres produits, d'autres marchés et donc de l'emploi.
Sur les PFAS, justement, le professeur Sultan disait que la surveillance des PFAS doit dépendre de la responsabilité publique, justement. Mais face, du coup, à l'inaction, est-ce que c'est à la société, aux citoyens, en fait, de continuer toujours d'en parler et de faire entendre sa voix?
Alors là, tout à fait. Donc, avec le réseau Environnement Santé, on est une association justement très très militante par rapport à l'information, puisqu'on est une interface entre le milieu scientifique et le grand public. Et pour nous, c'est toujours apporter de l'information, de la connaissance au grand public, aux associations, aux élus, aux industriels, à tout ce qui peut, j'allais dire, agir. Mais la décision est une décision politique. Or, on se rend compte que trop souvent, on a des lobbies industriels qui font pression sur les élus, que ça soit au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, et qu'à chaque fois où on stagne, nous on recule. Donc, il faut continuer à informer, continuer à faire pression, parce que ce sont des questions majeures, puisqu'il s'agit de la santé, il s'agit aussi même, j'allais dire, de la survie de l'humanité, puisque là, ça a des impacts très très fort sur la fertilité. Donc on sait qu'au niveau de la spermatogénèse, par exemple, le nombre de spermatozoïdes a baissé de 50% dans les 30-40 dernières années. Donc il y a vraiment, comment dire, c'est un enjeu, ce sont des enjeux qui sont considérables. Et il faut avoir du courage, hein. Il faut avoir du courage pour des choses positives, pour notre santé, la santé des écosystèmes, la santé de l'environnement, et arriver à sortir de ce cercle qui est un cercle de destruction, en fait.
Nathalie Ferrand-Lefranc, merci encore.
Avec plaisir.